Dirigeons-nous dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, dans nos Nouveaux Testaments, à page 65, Luc 2, 25 à 35, sera notre lecture principale ce matin. Prions d'abord un moment ensemble. Seigneur, tu as dit, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donne-nous tes instructions, Seigneur, à nouveau ce matin. Nous voulons les recevoir. Nous en avons tellement besoin. Je t'en prie, envoie ta lumière, envoie ta vérité dans nos âmes. Qu'elle nous guide, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous conduise à toi. Toi, notre Dieu, qui est notre joie et notre allégresse. Et comme nous ne sommes même pas capables par nous-mêmes de suivre tes instructions, donne-nous le vouloir et le faire. Donne-nous la grâce de t'obéir. Accorde-nous la grâce de suivre ta loi. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Luc 2, 25 à 35. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Amen. Le réveil matin sonne. Robert appuie sur le bouton et se rendort pour 15 minutes. Puis finit par, de peine et de misère, sortir du lit pour faire sa toilette, au son de la radio, préparer son déjeuner, en jetant un coup d'œil à ses derniers textos, tout en entendant le téléviseur qui est allumé, il n'a pas une seconde pour prendre le temps d'écouter Dieu dans sa parole, pour prendre le temps pour prier le Seigneur. Et s'il y pense, les vibrations de son téléphone le rappellent à l'ordre ou au désordre. Il se met des écouteurs sur les oreilles, s'en va vers l'arrêt d'autobus, s'assoit dans l'autobus, s'en allant travailler, il joue un jeu vidéo sur son téléphone, passe une journée difficile et stressante et éreintante, revient à la maison, et là, il est fatigué et il s'endort en regardant une vidéo. Et les jours passent, et Robert se plaint que Dieu ne l'écoute pas, que Dieu ne le dirige pas lorsqu'il a une décision difficile à prendre. Mais c'est étonnant. A-t-il cherché à écouter Dieu? Sérieusement? Non. Est-ce que celui qui désire être écouté par Dieu ne doit pas commencer par lui-même écouter Dieu? Je vous parle d'une autre personne maintenant, Siméon, ce personnage de Luc 2, 25 à 35. Le nom Siméon signifie « qui a été entendu ». Qui a été entendu. Je relis le verset 25. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Assurément, lorsqu'on étudie la vie de Siméon, et c'est le seul passage dans la Bible qui nous parle de cet homme, on voit quelqu'un qui était à l'écoute de Dieu. Les oreilles spirituelles de Siméon étaient ouvertes à ce que l'Esprit avait à lui dire. Et Siméon connaissait bien la parole de Dieu. Il connaissait bien les prophéties de l'Ancien Testament et surtout, il y avait cette prophétie de la venue de la consolation d'Israël. Et pour lui, toutes sa vie était orientée vers le grand désir de voir cette prophétie s'accomplir, la consolation d'Israël. Qu'est-ce que c'est ça, cette consolation d'Israël? Eh bien, la consolation d'Israël, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre titre du Fils de Dieu. Vous savez maintenant que le Fils de Dieu, nous l'avons vu dans les dernières semaines, a plusieurs titres dans la Bible, toutes sortes de titres qui sont pour nous comme un torrent de réconfort, de consolation pour nos vies quotidiennes. Et ici, ce que Siméon attendait plus que tout, c'était la venue de cette consolation d'Israël qui était le Fils de Dieu lui-même qui allait naître, hein, qui avait été promis dès le Jardin d'Éden et qui était pour venir nous délivrer de nos fautes, de nos péchés. Jésus-Christ est la consolation d'Israël et dans ce mot consolation se trouvent toutes sortes de choses, tout ce que Jésus-Christ est et fait, sa justice qu'il nous donne, nos péchés qu'il efface, qu'il ôte, l'espérance de la gloire, l'héritage éternel et toutes ces richesses, tous ces trésors qui sont à nous en Jésus-Christ sont inclus dans cette expression, la consolation d'Israël. Siméon attendait cet accomplissement de cette promesse. Quelle belle foi il a! Il vit en étant animé de cette promesse de Dieu faite dans le cadre de son alliance d'envoyer ce Messie sauveur, rédempteur, et c'est dans cette perspective-là que Siméon vit son existence. C'est ça qui le soutient. Il est à l'écoute de Dieu, il attend Dieu. Sommes-nous à l'écoute de Dieu, nous, comme il l'était? Au verset 26, il dit, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » C'est remarquable de voir l'action, la présence du Saint-Esprit dans la vie de Siméon. On a vu au verset 25, « L'Esprit-Saint était sur lui. » Ici, verset 26, « Il a été divinement averti par le Saint-Esprit. » Et verset 27, « Il est allé au temple, poussé par l'Esprit. » La source de la vie spirituelle de Siméon, c'est l'Esprit-Saint qui l'anime et qui œuvre en lui. Ce Saint-Esprit avait averti Siméon qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, c'est une expression tirée de l'Ancien Testament qui faisait allusion à loin de l'Éternel, au Messie, à ce Sauveur promis depuis si longtemps. Versets 27 à 29. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Éclairé par l'Esprit Saint, Siméon voit dans cet enfant amené au temple l'accomplissement des promesses faites au Père, à savoir cette bénédiction extraordinaire, aussi bien pour Israël que pour toutes les nations, qu'il y aurait un sauveur. Et il est tellement heureux, sans aucun doute. Il prend l'enfant dans ses bras, il le reçoit dans ses bras, bénit Dieu. Quel cœur en fête il devait avoir! Quelle intimité et affection ici, on voit qu'il prend et reçoit dans ses bras ce sauveur qu'avait tellement désiré voir. Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les patriarches avaient tellement désiré, espéré voir ce jour et Siméon le bonheur de pouvoir le prendre dans ses bras de façon affectueuse, pleine de reconnaissance. Il prend dans ses bras, il reçoit dans ses bras celui qui est l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. C'est ce qu'il fait ici. Jésus expérimente l'étreinte affectueuse de quelqu'un qui sait l'apprécier comme étant le salut envoyé par Dieu. Siméon fait ici pour Jésus ce que Jésus va faire plus tard pour les petits-enfants, que Jésus va prendre et recevoir dans ses bras pour les bénir. C'est une action de grâce, le fait qu'il bénit Dieu. Et il dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Maintenant que ta parole est accomplie, maintenant que je sais que tu es fidèle, maintenant je peux m'en aller en paix. Autrement dit, je suis prêt à mourir. Tu as apaisé mon cœur. L'espérance qui m'animait a maintenant trouvé son accomplissement et je suis prêt à quitter ce monde difficile, exigeant, cette vallée de larmes, de pleurs, ces misères, je suis prêt, car j'ai vu, Seigneur, que tu es fidèle. Il parle comme quelqu'un dont la mort a perdu ses terreurs et dont le monde a perdu ses charmes. Il désire rentrer à la maison, il désire être vraiment dans la présence même de Dieu, où il n'y aura plus toutes ces difficultés, ces troubles dans cette vie. Il sait bien que mourir, c'est un changement pour le chrétien qui est pour le mieux, et il a hâte, il est prêt. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de parler de cette façon? Qu'est-ce qui peut nous délivrer de la peur de la mort? Rien d'autre que la foi en Jésus-Christ ne peut nous délivrer de la peur de la mort. Il faut être en règle avec Dieu pour mourir en paix. Et ce qui nous fait être en règle avec Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes habités de cette foi, lorsque nous saisissons fermement les promesses de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons aborder la perspective de la mort avec un cœur en paix. « Je peux m'en aller en paix, » dit-il. « Je suis prêt. Mon cœur est apaisé. Tu as comblé mon espérance du salut. Le grand consolateur est arrivé. » Verset 30 à 32. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Le serviteur de Dieu a dit le texte qui est devant nous aujourd'hui. C'est l'Ancien Testament qui donne le baiser de paix au Nouveau Testament. Et c'est vrai parce que ce dont Siméon parle maintenant dans les versets qui sont devant nous et qui continuent, c'est tout à fait ce que les prophètes dans l'Ancien Testament avaient annoncé. Et on se dit, si la présence de Jésus, qui n'était alors qu'un petit bébé, a apporté tant de consolation à Siméon, de sorte qu'il puisse aborder la perspective de la mort en toute paix, eh bien, combien plus ce que nous savons, nous, du Sauveur Jésus-Christ, nous qui vivons bien après, combien plus nous qui connaissons à quel point il a accompli toutes les facettes de notre salut, combien plus nous devrions être encouragés, apaisés face à la mort, face aux difficultés de ce monde, combien plus nous devrions être fortifiés puissamment à cause de ce que nous savons de Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il est venu et qu'il a vécu comme il avait promis, qu'il a expié nos fautes, qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Il a déployé sa puissance par de nombreux miracles, dans le sacrifice de sa mort, dans la résurrection. Si un tel regard n'apporte pas à nos consciences la paix, la consolation, la force, nous sommes ingrats envers Dieu, en quelque part. Nous comprenons mal l'honneur qu'il nous fait de nous avoir donné un tel sauveur. Par l'Esprit qui agit en lui, Siméon devient comme un prophète. Il ne parle plus de lui-même, mais sa pensée s'élève jusqu'au plan de salut que Dieu a préparé pour toutes les nations. L'Ancien Testament disait « Toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Et c'est ce que Siméon annonce maintenant. D'une part, le Christ Jésus est lumière pour éclairer toutes les nations païennes qui sont plongées dans les ténèbres les plus profondes. D'autre part, il est la gloire d'Israël. Tout en ayant part au salut, le peuple d'Israël est quand même honoré dans un sens. Il aura comme un honneur immortel d'avoir donné au monde le Sauveur tant annoncé. Par l'Esprit Saint, donc, Siméon discerne en Jésus la consolation d'Israël, le salut préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Voyez-vous comment les scribes et les pharisiens auraient dû aller s'asseoir aux pieds de Siméon pour se laisser enseigner par lui. Eux qui accusaient Jésus d'être Belzébul, de servir le prince des démons, ils auraient pu recevoir une bonne instruction s'ils étaient allés s'asseoir aux pieds de Siméon qui, rempli de l'Esprit Saint, nous oriente vers cette personne si riche qu'est le Fils de Dieu, notre Consolateur. Verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Bien sûr, à ce moment-là, Joseph et Marie avaient déjà une certaine connaissance de qui était l'enfant, hein, dont ils avaient la responsabilité. Ils avaient eu des visites de Gabriel qui leur avait enseigné un certain nombre de choses, mais ils étaient loin d'avoir encore saisi pleinement les conséquences grandioses de leur enfant. Et donc, ils écoutent, ils entendent Siméon, qui est rempli d'esprit, leur parler et des horizons nouveaux s'ouvrent devant eux. Ils saisissent davantage l'importance de Jésus. Ils sont de plus en plus émerveillés, étonnés, admiratifs devant tout ce qui est dit de leur fils. Et nous aussi, lorsque nous réfléchissons à l'œuvre de Jésus, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait, nous aussi, nous sommes émerveillés, nous ne cessons jamais, jour après jour, d'être émerveillés par la personne de Jésus et la beauté de son œuvre. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Siméon les bénit, il implore sur eux la bénédiction divine, et il leur annonce que tout ne sera pas douceur, tout ne sera pas facile. Ils ne voient pas seulement la plus brillante lumière qui n'ait jamais existé sur la terre en voyant Jésus, mais ils discernent aussi les conditions difficiles dans lesquelles cette lumière-là va briller. La réception qu'elle va rencontrer, les résultats qui vont en découler vont être divers. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, aux uns, le Sauveur sera une occasion de chute. Aux autres, il sera une occasion de relèvement. Pour tous ceux qui vont rejeter le Fils de Dieu, ce sera une occasion de chute, de ruine. On peut tourner à notre malheur ce que Dieu nous donne pour notre bonheur. Quel usage faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Prenons garde que ce que Dieu nous donne pour notre salut ne tourne pas à notre ruine. Quelle chose terrible pour les êtres humains que de trébucher contre Jésus-Christ pour leur perdition éternelle. Donc, ceux qui sont ennemis de Jésus-Christ et qui vont le rejeter ne vont rien gagner, mais ils vont être ruinés, ils vont chuter, ils vont être brisés, mis en pièces. Hein, c'est les explications de ce mot ici, chute, par lequel le Saint-Esprit annonce aux incrédules le sort qui les attend. Et aussi le sort qui nous attend, nous, si nous ne nous tenons pas loin de ces incrédules ennemis de Dieu. Si nous devenons trop amis avec eux, nous pourrions nous retrouver dans le trou. Donc, en même temps, c'est un avertissement que le Saint-Esprit nous donne pour notre bien. Pour tous ceux, par contre, qui vont se confier dans le Messie, qui vont le recevoir avec foi, ce sera le relèvement, dit Siméon. La résurrection, le mot ici, utilisé pour relèvement, partout ailleurs dans le Nouveau Testament est traduit par résurrection. Ceux qui reçoivent le Fils de Dieu vont ressusciter, vont être ramenés à la vie, ils vont être transformés. Hein? Si on pense par exemple à Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul, on se dit « Waouh, quelle résurrection Dieu a opéré en lui ». Siméon ajoute que Jésus sera un signe qui provoquera la contradiction. En prêchant l'Évangile, en prêchant sa doctrine à lui, Jésus va rencontrer des gens qui vont être pour lui et des gens qui vont être contre lui. C'est ce qu'on voit partout, dans l'Évangile de Jean surtout, mais dans le livre des Actes des Apôtres aussi. Toute la vie de Jésus a été la réalisation de cette prophétie de Siméon. Hébreux 12, 3. « Considérez celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne. » afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Parmi les derniers mots de Actes 28 se trouve ce parti des chrétiens rencontre partout la contradiction. La contradiction. Jésus-Christ est prêché encore aujourd'hui et il rencontre la contradiction. En 2 Corinthiens 2, 16, Paul dit « Aux uns, Jésus-Christ est une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, il est une odeur de vie qui mène à la vie. » C'est la même idée, la chute ou le relèvement. Il n'y a pas de zone neutre. On ne peut pas être neutre dans une espèce de plage, place, ou est-ce que non. On est soit pour Jésus-Christ, on est soit contre lui, on est soit avec lui, on est en guerre contre lui. Et c'est ce que ce texte de Siméon ici évoque. Si nous vivons en Jésus-Christ, nous allons nous aussi rencontrer la contradiction. Psaume 120, le verset 7 dit, « Moi, je suis pour la paix, mais dès que je parle, eux, ils sont pour la guerre. » Et c'est ce que nous allons expérimenter nous aussi. Si nous voulons proclamer Jésus-Christ, il y a beaucoup d'auberges de ce monde où il n'y aura pas de place pour nous, comme il n'y a pas eu de place pour le Fils de Dieu à Bethléem. Verset 35, « Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Cette épée tranchante qui va transpercer l'âme de Marie, bien sûr, ce sont les souffrances que Jésus va subir, la persécution, les souffrances, la mort. Il y a une allusion ici qui est faite aux douleurs terribles et à la mise en dehors de ce monde, en quelque sorte, comme dit Isaïe 53, du Fils de Dieu. Ça va être très douloureux pour Marie. Donc, Siméon résume, en quelque sorte, dans ces mots, l'histoire de la vie de Jésus-Christ face à l'humanité. L'humanité va se diviser en deux camps. Il y aura ceux qui vont recevoir le Fils de Dieu, être sauvés, puis il y aura ceux qui vont rejeter le Fils de Dieu et être perdus. Le camp de Dieu ou le camp de Satan. Dégageons de ce texte quelques leçons pour nous. J'en ai cinq. Premièrement, cherchons notre consolation en Jésus-Christ, pas ailleurs. Voici un texte que vous connaissez bien. Quelle est ton unique consolation dans la vie comme dans la mort? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Siméon aurait sûrement dit « Amen » à cette première question du catéchisme de Heidelberg qui nous rappelle où se trouve notre véritable consolation. Et parfois, si nous sommes peut-être souvent découragés ou affaiblis, c'est que nous avons oublié ou négligé d'aller à Jésus-Christ pour être consolés. Il est notre consolation. Et nous devons exercer la foi dans la promesse de Dieu que notre consolation est en Jésus-Christ. Et pas ailleurs, nulle part ailleurs. Deuxièmement, espérons et attendons ardemment le retour de Jésus-Christ. L'espérance de Siméon n'a pas été vaine. La nôtre ne sera pas vaine non plus. Siméon vivait dans l'espérance de voir le Messie, le Sauveur, qui avait été attendu depuis 4000 ans, la consolation d'Israël. Et il l'a vu. Quelle joie, quel bonheur, quelle allégresse. Il a vu que Dieu est fidèle, que Dieu accomplit ses promesses. Le grand consolateur est venu et Jésus, avant de quitter ce monde, a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est sûr et certain qu'il va revenir, c'est notre espérance. Nous l'attendons. Quand est-ce qu'il va revenir, on ne le sait pas. La Bible dit, on doit toujours être prêt. Mais c'est notre espérance, à nous, de son retour. Glorieux, avec toutes les promesses qui vont accompagner son retour. Cette espérance-là, elle nous habite, nous attendons ardemment, nous espérons le retour de Jésus-Christ. Et quand nous devons traverser des moments difficiles dans nos vies, diverses épreuves, nous regardons en haut, nous attendons, nous espérons le retour de Jésus-Christ qui va venir établir son royaume éternel et ça nous maintient dans le courage et la force. Troisièmement, n'envions jamais les incroyants, ils n'ont aucune consolation. Seuls les croyants ont la consolation véritable en Jésus-Christ. La condition des non-croyants est très inconfortable et misérable, sans aucune vraie consolation. Ils peuvent trouver quelque amusement dans ce monde, mais zéro véritable consolation pour leurs âmes. La Bible dit qu'ils se réjouissent de ce qui n'est que néant. Elle dit qu'ils sont terrifiés par la mort. Elle dit aussi qu'au milieu même du rire, leur cœur souffre et à la fin, leur joie devient chagrin. Ici, il n'y a pas de véritable repentance dans leur vie. La porte de la consolation va leur être fermée pour toujours. Ne les envions jamais. Jamais. Rien ne peut consoler nos âmes à part Jésus-Christ. Les amusements, les distractions, les divertissements à l'infini, les honneurs, la richesse, l'argent, toutes ces choses ne peuvent donner aucune véritable consolation à nos âmes, à nos cœurs. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 6, en parlant des chrétiens, il dit « On nous voit comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. On nous considère comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. On nous voit comme n'ayant rien, mais nous possédons tout. » On pourrait virer ça à l'envers et dire « Les incroyants, parfois, semblent joyeux. » Et non, ils ne le sont pas en réalité parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur avec leur Créateur. Quatrièmement, attendons-nous à être persécutés durant notre vie de témoins de Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avons médité sur le titre « Prince de la paix » qui est attribué à Jésus en Ésaïe 9:5. Siméon vient de nous dire que le Christ Jésus va provoquer la contradiction. Jésus lui-même a dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » La paix qu'apporte le prince de la paix est une relation restaurée avec Dieu. Mais tous ceux qui ne veulent rien savoir de cette relation restaurée avec Dieu font la guerre à Dieu, font la guerre au peuple de Dieu, aux chrétiens, ils ne sont pas contents, ils s'opposent. C'est la réponse négative des pécheurs à l'appel de Dieu qui cause la division et le trouble et la guerre. 2 Timothée 3:8. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous devons toujours nous rappeler de cette vérité-là. Cinquièmement et finalement, apprenons à écouter le Seigneur dans sa parole et dans la prière. Je reviens un petit peu à ce Robert dont je vous ai parlé au début. Ne prenez pas le temps d'écouter Dieu dans sa parole et de le prier. Celui qui veut être écouté de Dieu ne doit-il pas commencer par écouter Dieu? Et n'est-ce pas là une leçon que nous avons tous besoin d'apprendre et de réapprendre constamment, chacun d'entre nous? Siméon, de toute évidence, avait appris à écouter Dieu, à être docile à sa voix. Il avait à cœur que ses aspirations se portent vers Dieu en s'appuyant sur les promesses de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Son attention au Seigneur lui a procuré beaucoup de bonheur. Il était dirigé par l'Esprit, à l'écoute de l'Esprit. L'Esprit, son but, c'est quoi? C'est de glorifier Jésus-Christ, c'est de nous révéler Jésus-Christ, c'est de nous faire connaître davantage notre Sauveur et vivre en lui. Et si nous étions plus à l'écoute du Saint-Esprit, à l'aide de la parole de Dieu, nous pourrions avoir beaucoup moins de sécheresse spirituelle. Se peut-il ce matin que vous soyez déconnecté du Seigneur? Vous vous sentez peut-être loin de lui parce que vous avez négligé de vous mettre à l'écoute de lui sérieusement. Pas besoin de rester dans ce triste état. S'il y a eu déconnexion, reconnectez-vous au Seigneur, aujourd'hui même, sans tarder, parce que vivre une vie branchée sur le Seigneur, connectée au Seigneur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Amen.